Chapitre 6. Bâtir des pyramides. La révolution agricole est l'un des événements les plus controversés de l'histoire. Certains de ses partisans proclament qu'elle a engagé l'humanité sur la voie de la prospérité et du progrès. D'autres soutiennent qu'elle est la voie de la perdition. C'est à ce tournant, selon eux, que Sapiens s'arracha à sa symbiose intime avec la nature pour sprinter vers la cupidité et l'aliénation. Où qu'elle mena, c'était une voie sans retour. L'agriculture permit aux populations une croissance si forte et si rapide qu'aucune société complexe ne pourrait plus jamais subvenir à ses besoins en revenant à la chasse et à la cueillette. Autour de 10 000 ans avant notre ère, avant la transition agricole, la Terre hébergeait de 5 à 8 millions de fourrageurs nomades. Au 1er siècle avant notre ère, il ne restait que 1 à 2 millions de fourrageurs, essentiellement en Australie, en Amérique et en Afrique. Mais ils ne pesaient plus rien en comparaison des 250 millions de cultivateurs du monde. L'immense majorité d'entre eux vivaient dans des implantations permanentes. Une poignée seulement étaient des pasteurs nomades. Ce fixé réduisit de manière spectaculaire le terrain de la plupart. Les anciens chasseurs-cueilleurs vivaient habituellement dans des territoires couvrant plusieurs dizaines, voire des centaines de kilomètres carrés. Le foyer était la totalité du territoire, avec ses collines, ses ruisseaux, ses bois et le ciel. Les cultivateurs, en revanche, passaient le plus clair de leur journée à travailler un petit champ ou un verger, et leur vie domestique tournait autour d'une construction encombrée de bois, de pierres ou de boue d'à peine quelques dizaines de mètres, la maison. Le cultivateur typique se prenait d'un attachement très fort à cette structure. Ce fut une révolution de très grande portée, dont l'impact fut autant psychologique qu'architectural. Dès lors, l'attachement à sa maison et la séparation d'avec les voisins devint la marque psychologique d'une créature bien plus égocentrique. Les nouveaux territoires agricoles n'étaient pas seulement beaucoup plus petits que ceux des anciens fourrageurs, mais aussi beaucoup plus artificiels. Hormis l'usage du feu, les chasseurs-cueilleurs apportaient peu de changements délibérés aux terres dans lesquelles ils évoluaient. Les cultivateurs, en revanche, vivaient sur des îles humaines artificielles qu'ils s'employaient à détacher de leur environnement sauvage. Ils abattirent des forêts, creusèrent des canaux, défrichèrent des champs, bâtirent des maisons, retournèrent la terre et plantèrent des arbres fruitiers en rangées bien soignées. L'habitat artificiel qui en résulta était destiné uniquement aux hommes, ainsi qu'à leurs plantes et à leurs animaux, et était souvent protégé par des murs ou des haies. Les familles de cultivateurs firent leur possible pour tenir à l'écart herbes folles et animaux sauvages. Les intrus étaient chassés. S'ils s'obstinaient, leurs adversaires humains cherchaient les moyens de les exterminer. Des défenses particulièrement robustes étaient érigées autour du foyer, la maison. Depuis l'aube de l'agriculture jusqu'à aujourd'hui, des milliards d'êtres humains armés de branches, de tapettes, de chaussures ou d'insecticides ont mené une guerre sans merci aux fourmis diligentes, aux cafards furtifs, aux araignées aventureuses et aux scarabées égarés qui ne cessent de s'infiltrer dans leur domicile. Pendant le plus clair de l'histoire, ces enclaves artificielles restèrent très petites, entourées de vastes étendues de nature indomptée. La surface de la planète est d'environ 500 millions de kilomètres carrés, dont 155 millions de terres. En l'an 1400 de notre ère, l'immense majorité des paysans, avec leurs plantes et leurs animaux, se regroupaient dans à peine 11 millions de kilomètres carrés, soit 2% de la surface totale. Le reste était trop froid, trop chaud, trop sec, trop humide, ou inadapté pour une raison ou pour une autre à la culture. C'est sur cette minuscule scène de 2% que se déroula l'histoire. Il était difficile aux hommes de quitter leurs îles artificielles. Ils ne pouvaient abandonner leurs maisons, leurs champs et leurs greniers sans s'exposer à de graves risques de perte. De surcroît, le temps passant, ils accumulèrent de plus en plus de choses, des objets malaisément transportables qui les clouaient sur place. Les paysans d'antan nous sembleraient bien miséreux, mais une famille typique possédait davantage d'artefacts que toute une tribu de fourrageurs. L'avènement du futur. L'espace agricole se rétrécissant, le temps agricole augmenta. Habituellement, les fourrageurs ne perdaient guère de temps à s'interroger sur le mois suivant. Les paysans se projetaient en imagination à des années, voire des décennies du temps présent. Les fourrageurs n'avaient cure du futur, parce que les aliments allaient directement de la main à la bouche et qu'ils pouvaient difficilement conserver des aliments ou accumuler des biens. Certes, ils faisaient visiblement des préparatifs à long terme. Les décorateurs des grottes de Chauvet, Lascaux et Altamira espéraient très certainement que leur travail durerait des générations. De même, alliances sociales et rivalités politiques étaient des affaires à long terme. Il fallait souvent des années pour rendre une faveur ou venger un tort. Dans l'économie de subsistance de la chasse et de la cueillette, la limite de cette planification à long terme était cependant évidente. Paradoxalement, cela épargnait aux fourrageurs quantité d'angoisse. Il ne rimait à rien de s'inquiéter de choses sur lesquelles il n'avait aucune influence. La révolution agricole rendit le futur bien plus important qu'il ne l'avait jamais été. Les paysans ne doivent jamais perdre de vue le futur et doivent se mettre à son service. L'économie agricole reposait sur un cycle saisonnier de production, formé de longs mois de culture, suivis de pics de courte durée consacrés aux moissons. La nuit suivant la fin d'une récolte abondante, les paysans pouvaient faire la fête, mais une semaine plus tard, il leur fallait retourner au champ dès l'aube pour une longue journée de travail. Même s'il y avait assez à manger pour aujourd'hui, la semaine prochaine, voire le mois suivant, il devait s'inquiéter de l'année suivante et de l'année d'après. Le souci de l'avenir s'enracinait dans les cycles saisonniers de production, mais aussi dans l'incertitude fondamentale de l'agriculture. La plupart des villages vivant de la culture d'une variété très limitée de plantes et d'animaux domestiqués, ils étaient à la merci de sécheresses, d'inondations et d'épidémies. Les paysans étaient obligés de produire plus qu'ils ne consommaient afin de constituer des réserves. 100 grains dans le silo, jarre d'huile au cellier, fromage dans le garde-manger et saucisses pendues au chevron, ils mouraient de faim les mauvaises années. Or, il y aurait tôt ou tard de mauvaises années. Un paysan faisant comme si de rien n'était ne vivait pas longtemps. Dès l'avènement de l'agriculture, les soucis quant à ce que réservait le futur devinrent de grands acteurs dans le théâtre de l'esprit humain. Si les paysans dépendaient des pluies pour arroser leurs champs, comme au levant, le début de l'automne était synonyme de journées plus courtes et de visages soucieux. Tous les matins, les paysans scrutaient l'horizon, humant le vent. Un nuage ? Les pluies viendraient-elles à temps ? Seraient-elles suffisantes ? Des orages violents emporteraient-ils les semences et détruiraient-ils les jeunes plants ? Pendant ce temps, dans les vallées de l'Euphrate, de l'Indus et du fleuve Jaune, d'autres paysans ne tremblaient pas moins en surveillant la hauteur de l'eau. Ils avaient besoin que la crue des rivières dépose une couche de terre fertile charriée depuis les hautes terres et remplisse leur vaste réseau d'irrigation. Mais une crue trop forte ou intempestive pouvait détruire leurs champs autant qu'une sécheresse. Si les paysans se souciaient de l'avenir, ce n'est pas seulement qu'ils avaient des raisons de s'inquiéter, mais aussi parce qu'ils y pouvaient quelque chose. Ils pouvaient défricher un autre champ, creuser un autre canal d'irrigation et semer d'autres cultures. Le paysan anxieux était aussi frénétique et dur à la tâche qu'une fourmi moissonneuse en été, suant pour planter des oliviers dont ses enfants et petits-enfants seulement presseraient l'huile, mettant de côté pour l'hiver ou l'année suivante des vivres qu'il mourrait d'envie de manger tout de suite. Le stress de la culture fut lourd de conséquences. Ce fut le fondement de systèmes politiques et sociaux de grande ampleur. Tristement, les paysans diligents ne connaissaient quasiment jamais la sécurité économique dont ils rêvaient en se tuant au travail. Partout surgirent des souverains et des élites qui se nourrirent du surplus des paysans et leur laissèrent juste de quoi subsister. Ces surplus de nourriture confisqués alimentèrent la vie politique, la guerre, l'art et la philosophie, permettant de bâtir palais, forts, monuments et temples. Jusqu'à la fin des temps modernes, plus de 90% des hommes étaient des paysans qui se levaient chaque matin pour cultiver la terre à la sueur de leur front. L'excédent produit nourrissait l'infime minorité de l'élite qui remplit les livres de l'histoire, rois, officiels, soldats, prêtres, artistes et penseurs. L'histoire est une chose que fort peu de gens ont faite pendant que tous les autres labouraient les champs et portaient des seaux d'eau.